Bonsoir, ça fait gratter.
Vous êtes bien sur Radio Canu avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu sur le 102.2. Et qu'est-ce qui se passe ?
Vas-y, oui, c'est bon, wow, formidable.
C'est la coordination des groupes anarchistes et on me fait peur au studio, j'ai l'impression que ça ne marche pas.
Si, ça marche,
donc,
tout va bien.
On va bien pouvoir partir avec les annonces.
Ouais, donc bonsoir à toutes et à tous. On démarre par les annonces. Du coup, on va commencer par une petite annonce qui concerne le groupe CGA de Haute-Savoie qui organise une projection. Projection débat, du coup, relative à la Révolution espagnole de 1936. Donc la projection, c'est du film de Ken Loach, Land and Freedom. Du coup, cet événement fait suite à la précédente projection débat du doc La Tragédie des Brigades Internationales en décembre dernier. Ce cycle de projection a pour but de mieux faire connaître les événements de cette période historique en visibilisant l'action des révolutionnaires et des anarchistes, action volontairement effacée par les oppresseurs de toute tendance. L'autre but est bien sûr de présenter le projet anarchiste. Donc ça se passe le 15 février à 20h à l'Alter Local, qui est donc un lieu autogéré de l'agglomération d'Annecy. Voilà, allez faire un tour sur le site de l'Alter Local si vous voulez plus de renseignements. Deuxième petite annonce, ça se passera vendredi sur Lyon Place des Terreaux, donc c'est un rassemblement de soutien en délinquance solidaire. C'est à l'appel du collectif ENS de Lyon en lutte. Je vous lis leur petit appel. Donc voilà, rassemblement en soutien aux accusés de délit de solidarité. Donc c'est ce vendredi 10 février à 19h, place des Terreaux à Lyon. La solidarité n'est pas un délit, personne n'est illégal. Donc voilà, donc ce vendredi, parce que ce vendredi 10 février donc, a lieu la délibération pour le procès de Cédric Héroux, criminalisé pour avoir tendu la main à des personnes en détresse, solidaire avec les migrantes et migrants qui, après avoir franchi les obstacles imposés par la peur, la haine et les calculs politiques, arrivent dans notre pays, solidaire avec celles et ceux qui les accueillent, leur apporte couverture, nourriture, boissons chaudes, vêtements, tentes, secours médical, assistance juridique, chaleur et amitié. Nous refusons que l'entraide et la solidarité soient criminalisées et que les membres d'associations d'aide aux migrantes et migrants soient arrêtés et mis en examen pour avoir fait preuve d'humanité, de générosité, voilà, etc. etc. Donc il y a un rassemblement qui est appelé donc, ce vendredi 10 à 19h, place des Terreaux à Lyon, par le collectif ENS de Lyon en lutte. Deux jours plus tard, le dimanche 12 février à Vénissieux, il y a un rassemblement qui est appelé à 13h devant le collège Elsa Triolet, 3 avenue de la division Leclerc, tram T4, arrêt Vénissieux. Donc voilà, c'est un rassemblement face aux violences policières et à la répression d'État. Il y a deux trucs hein, voilà, qui se chevauchent pour ce rendez-vous-là. Il y a forcément du coup le drame de Théo à Aulnay, d'Adama et de tous les autres, des victimes quotidiennes de la police dans les banlieues, et aussi la répression qui a lieu du coup au Minguette le 1er février. Voilà, avec un clip et un concert de rap gratuit, et voilà, et la police française qui est arrivée du coup, qui a gazé un peu tout le monde, frappé, menotté, etc., que ce soit des enfants ou des plus âgés. Donc voilà, et ce rendez-vous a lieu devant le collège parce qu'il y a madame Najet Vallaud-Belkacem qui vient présenter un truc sur les outils numériques, je crois. Il y a aussi, alors je rétropédale un peu, c'est le 9 février, donc c'est la veille, c'est vendredi le 9 ou demain, je sais plus. Vous en foutez, donc c'est pas.
9, c'est demain.
C'est demain, donc c'est demain. C'est une soirée de rencontre et de soutien aux réfugiés LGBTI à Lyon. C'est organisé par. Oula, t'as augmenté quelque chose là. Ouh, ça me pétait les oreilles. C'est le collectif lesbien lyonnais avec le groupe The Big Tape qui organise le 9 février 2017 à partir de 18h30 une soirée de rencontre et de soutien à nos amis LGBT en pleine procédure de demande de statut de réfugié en France. Voilà, ces dossiers de demande à l'OFPRA sont très difficiles et lourds à constituer, témoignages, coupures de presse sur la situation du pays pour les LGBT, etc. Même si certaines associations ou organismes comme l'ARDIS, Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles, à l'immigration et au séjour à Paris, qui peuvent guider les demandeurs et demandeuses dans leur démarche. Afin de mieux comprendre le parcours de ces personnes, les persécutions vécues dans leur pays et ce qu'elles subissent ici pour obtenir des papiers dont dépendent leur vie et leur liberté. Donc il y a une invitation et une soirée de rencontre, de projection et d'information sur le sujet. Donc ça se passe au centre LGBTI de Lyon. Donc 18h30 accueil, 19h30 projection d'un documentaire « Les portes d'Arcadie ». 20h30 discussion et apéro convivial. Donc voilà, ça se passe au 19 rue des Capucins dans le premier arrondissement. Si vous êtes du côté de Chambéry, il y a un événement qui est organisé qui s'appelle Concert sans frontières. Donc c'est un peu loin, mais j'en parle déjà maintenant. Au moins ce sera fait, parce qu'après on risque d'oublier. Ça se passera le 10 et 11 mars. Donc c'est pour la quatrième année d'affilée que ça se passe. Différentes organisations, donc il y a la CNT, la FA et le SCALP, et des individus impliqués dans la lutte antifasciste qui organisent un concert sans frontières à Chambéry. Donc le 10 mars, il y a projection. Bon, c'est pas le document, c'est pas le documentaire du siècle. Hein, c'est acta non verba, mais bon, c'est comme ça. Hein, quand on est antifa, apparemment. On a oublié de passer celui-là. Et le 11 mars, il y a des concerts avec Les Sans Voix, Première Ligne, Les Partisans, Facda Touriste, Restauration Végétarienne avec la Marmite, Table de Presse, etc. Et sinon, je vous emmène à Saint-Julien-Molin-Molette pour le 18 février 2017 à 14h, place de la mairie, avec un appel des habitants et des habitants de là-bas. Vous savez que notre village de Saint-Julien-Molin-Molette est en lutte contre un projet d'extension de sa carrière. Pour l'instant, la carrière d'Helmonico Dorel a un droit d'exploitation jusqu'en 2020. Pour un tonnage de 150 000 tonnes par an sur une surface de 11 hectares, qui fut un temps était recouverte de forêts. L'exploitant, un groupe comprenant des carrières, des magasins de matériaux, etc., employant 188 salariés et enregistrant un chiffre d'affaires annuel de 58 millions d'euros, a demandé une extension de 7 hectares et un droit d'exploitation de 30 ans. Alors que nous pensions être quittes en 2020, la perspective de supporter cette exploitation industrielle, ses nuisances et ses camions jusqu'en 2050 nous effraie carrément. On en avait parlé il y a quelques mois, il y avait déjà eu un rassemblement, les gens avaient bloqué la route, c'était couché pour pas que les camions puissent accéder du coup pour l'extension de cette carrière-là. Donc ça se passe le 18 février 2017 à 14h et place de la mairie à Saint-Julien-Molin-Molette. Et pour finir, pour les annonces, juste voilà, pour parler d'une pétition qui tourne sur le net. Alors il y en a énormément, hein, c'est pour un étudiant sans papier. On va vous lire celle-ci, mais quand vous allez voir sur le site de RESF où vous pouvez signer la pétition en ligne, vous verrez qu'il y en a plein à signer aussi. Donc je vous le lis, donc Omar, marocain, est arrivé en France à 23 ans en août 2009 pour poursuivre son parcours universitaire. À son arrivée, il travaille son français et passe le test de connaissance de langue française et le concours pour intégrer l'école supérieure des interprètes et traducteurs. En 2010, il s'inscrit à Lyon 2 en master langue et culture étrangère, spécialité espagnole. En 2013, après avoir réussi la maîtrise, il s'inscrit à nouveau en master de traduction arabe-français au sein du département d'études arabes. Et en septembre 2016, il soutient mémoire de master en LEA, langue étrangère appliquée. Il obtient son master avec mention bien, il est actuellement inscrit en thèse. Une de ses sœurs d'Omar vit en France avec son conjoint et ses trois enfants français. Elle a un titre de séjour. Omar est très proche de ses trois neveux. Il est également parrain d'un enfant français de 2 ans et demi. Par ailleurs, Omar chante dans 2 groupes vocaux, les chants sans papier et les clés à molette. Il a participé à plusieurs créations de spectacles. Il contribue dans le cadre de Musique à l'usine à l'organisation de stages autour de la chanson française. Il participe à diverses associations depuis son arrivée, Banque alimentaire du Rhône, Action de solidarité et de soutien aux étudiants, Musique à l'usine. Donc en avril 2016, Omar a donc déposé une demande de titre de séjour. Elle est accompagnée de nombreuses lettres de soutien d'amis, d'universitaires, de responsables associatifs et d'artistes. Omar a reçu un refus de séjour et une OQTF le 30 septembre 2016. Un recours a été formulé au tribunal administratif par son avocate. Et donc pour que ça bouge, il faut un maximum de signatures du coup sur la pétition. Donc vous allez sur le site de RESF, vous tapez sur un moteur de recherche pétition RESF Omar Lyon, vous tombez dessus, vous signez, puis ça fait augmenter un peu le truc pour le dossier, pour le tribunal. Donc voilà pour les annonces.
Moi j'aurais une petite annonce à rajouter, mais du coup dans beaucoup plus longtemps, mais qui est importante peut-être de prévenir. Un nouvel appel à mobilisation internationale à la frontière franco-italienne les 15 et 16 avril 2017. Donc on a un peu de temps, je pense qu'on en reparlera, ouais, mais c'est bien juste de le glisser quand même avec un peu d'avance. Donc ça sera un appel de mobilisation internationale pour soutenir les personnes migrantes et dénoncer la situation de traque et de répression à la frontière franco-italienne. Voilà, on aura l'occasion d'en
Ouais, je pense qu'on en reparlera, ouais, carrément.
Donc voilà.
Ah oui, pardon.
L'enchaînement.
Je laisse la parole à Tristan pour un point.
Voilà, donc moi je vais vous parler plutôt de ce qui se passe avec Théo, donc qui a été victime de viol par la police à Aulnay-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc le jeudi 2 février, la première version des faits, c'est qu'à 17h, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis du coup, Des policiers procèdent à un contrôle d'identité d'une dizaine de personnes après avoir entendu des cris caractéristiques des guetteurs de points de vente de stupéfiants, explique un communiqué du parquet de Bobigny. Au cours de cette opération, les policiers tentent de procéder à l'interpellation d'un homme de 22 ans et au regard de la résistance de ce dernier, font usage de gaz lacrymo pour l'un d'eux et d'une matraque télescopique. Plus tard, une autre version des faits arrive. Donc, quatre fonctionnaires de police procèdent à un contrôle sur la plupart dans la cité des 3000 quand un jeune homme d'une vingtaine d'années s'interpose violemment, selon leurs termes, selon une source policière, du coup. S'ensuit une bagarre filmée par les caméras de la police municipale avant que le jeune homme, maîtrisé à l'aide de matraques, ne soit menotté puis emmené au commissariat de la ville. Après son transport à l'hôpital Robert Bélanger d'Aulnay, un médecin constate que Théo, la victime, a été blessé au visage et au crâne, présente une plaie longitudinale du canal anal, une déchirure de 10 cm et une section musculaire sphinctérienne. Il lui prescrit 60 jours d'incapacité totale de travail, donc d'activité. Les quatre fonctionnaires de police, initialement soupçonnés de viol, sont placés en garde à vue dans les locaux de la police des polices, donc l'IGPN. Les quatre hommes sont par ailleurs placés sous contrôle judiciaire et trois d'entre eux se voient interdire par les juges d'exercer l'activité de fonctionnaire de police. Le ministre entend la sanction et l'ensemble des quatre hommes. Ces quatre agents de la brigade spécialisée du terrain, donc la BST, d'Aulnay-sous-Bois, ont désormais l'interdiction d'exercer l'activité de fonctionnaire de police et l'interdiction de paraître en Seine-Saint-Denis. Donc le lendemain, le vendredi 3 février, Théo est toujours hospitalisé, affirmant qu'il a subi des violences au moment de son interpellation et de son menottage, ainsi que dans le véhicule de police. Les policiers continuent à nier. Leur garde à vue est prolongée de 24 heures. La scène a été filmée par des habitants. La vidéo commence à circuler sur Internet. Ensuite, le samedi 4 février, entre 21h et 23h, des brefs incidents éclatent dans la vaste cité des 3000, où une voiture est brûlée et une tentative d'incendie est constatée dans un bus. Les abribus sont également cassés et le quartier plongé dans l'obscurité après le sabotage de l'éclairage public. Ensuite, le dimanche 5 février, le jeune homme est toujours hospitalisé. Au parquet de Bobigny, on annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, estimant qu'il n'y a pas eu d'éléments intentionnels de pénétration. Mais le juge d'instruction chargé de l'enquête décide, in fine, de poursuivre l'auteur présumé des coups de matraque télescopique en le mettant pour examen pour viol. Ses trois collègues, eux, sont poursuivis pour violence volontaire en réunion. Dimanche soir, un important dispositif policier a été déployé à Aulnay, comprenant une compagnie de CRS appelée en renfort. Les forces de l'ordre ont été la cible de tirs de mortier artisanal et 5 personnes ont été interpellées. Ensuite, le lundi 6 février, le jeune homme qui a été victime de violences policières et de viol à la suite de son interpellation par 4 policiers à Aulnay jeudi, a dû être opéré et toujours hospitalisé. Les habitants, parmi lesquels de nombreux vêtus de t-shirts blancs réclamant justice, se rassemblent au pied de l'immeuble où vit le jeune homme dans la cité de 3000. Derrière, en demandant la justice pour Théo, ils marchent et en début d'après-midi, vers l'antenne du commissariat situé au cœur de la vaste cité de Seine-Saint-Denis en chantant la Marseillaise.
Dommage.
Ouais, c'est triste. Aurélie, la sœur aînée du jeune homme, lance un appel au calme et dit faire confiance à la justice, ce qui est assez triste d'ailleurs. Mon frère est dans un état assez critique, a-t-elle indiqué. Le jeune homme a raconté à son interpellation à son avocat, extrait, qui peut d'ailleurs être assez choquant. Il prend sa matraque, il me l'a enfoncé dans les fesses, volontairement. Dès qu'il m'a fait ça, je suis tombé sur le ventre, je n'avais plus de force. Là, il me dit « les mains dans le dos ». J'ai dû mettre mes mains dans le dos, ils m'ont mis les menottes, et là, ils m'ont dit « assis-toi maintenant ». Je leur ai dit que je n'arrivais pas à m'asseoir, je ne sens plus mes fesses. Ils m'ont mis du gaz lacrymogène dans la tête, dans la bouche, des coups de matraque en pleine tête. Et moi j'avais tellement mal aux fesses que cette douleur me semblait éphémère. C'est vraiment dur pour moi, mon pantalon était baissé, j'avais vraiment mal. Donc c'est des actes très violents qui ont été commis par la police de Aulnay. Donc ensuite, hier soir, donc le mardi 7 février, à Ménilmontant, deux manifs sauvages ont eu lieu pour Théo. Donc après plusieurs nuits d'émeutes à Aulnay-sous-Bois et une marche en soutien à Théo lundi pour dans la cité des 3000, un appel à rassemblement a été lancé à Paris un peu au dernier moment, ce mardi 7 février à 18h, le soir même à Ménilmontant. Et malgré la spontanéité du rassemblement, les manifestants ont été attendus par une dizaine de policiers anti-émeutes, des fourgons de police, de gendarmerie étaient garés sur les quatre axes de la place Ménilmontant. Vers 18h, le rassemblement était déjà nassé par les flics, Mais assez rapidement, les retardataires ont nassé la police qui nassait les copains eux-mêmes.
C'est... Un petit jeu de nasse. C'est bien.
La chaîne.
Ouais, la chaîne de nasse.
Ouais, c'est un peu une exception, mais pour les nasses, quoi. En plus de quelques centaines de militants présents, pas mal de visages donc, qui ont été aperçus, qui sont des militants qui sont là pas que pour ça, donc qui ont été vus pour leur travail sur les mouvements antiracistes. Beaucoup de gens du quartier sont également là à crier des slogans contre la police, avec comme exemple les flics, violeurs, assassins, ou le plus classique, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste les violeurs, ou encore, d'ailleurs qui fait assez écho, c'est Ziad, Bouna, Théo, Abana, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Après quelques frictions, les flics commencent à bouger un peu et la nasse se distend. On se retrouve près. Enfin, les manifestants. Désolé, c'est écrit. Les manifestants se retrouvent presque tous ensemble. De nouveaux fourgons de police arrivent sous les huées et les coups des gens. Des tags sont posés sur les abribus. L'ambiance se réchauffe et la perspective de manif sauvage se fait de plus en plus sentir. Ça commence à se diriger vers la couronne sur le boulevard de Belleville. Mais en face, les flics sont assez nombreux. Il doit être 19h quand les derniers fourgons arrivent sur la place venant de la rue Ménilmontant. Ça s'est classé au niveau Bleuzaille de ce côté-là. Donc il y avait 200-250 flics bien. Non, il y avait 200-250 manifestants bien motivés. Désolé. Donc pendant ce temps-là, il y avait une autre manif sauvage qui est partie en direction de Bastille. Donc voilà. Les manifestants, donc. Remonte la rue Ménilmontant en gueulant à peu près les mêmes slogans que pendant les rassemblements. Rapidement, les tags sont inscrits sur les murs, donc flics, violeurs, assassins, flics hors de nos villes, l'État assassine, la police viole, etc. Des poubelles sont renversées sur le passage, du mobilier urbain déplacé pour ralentir les flics derrière eux. L'ambiance est électrique, mais la présence oppressante de flics aux trousses des manifestants est aussi la cause des tristes raisons pour lesquelles ils se réunissent ce soir, donc pour rappeler le viol de ce jeune Théo. Mais il y a une certaine euphorie de se retrouver en manif sauvage, donc les problèmes, enfin voilà.
Ouais, il y a eu quelques vidéos qui tournent sur le net, vous pouvez retrouver ça sur cette manif sauvage. Il y en avait une autre qui était, enfin une autre manif qui était appelée ce soir, du coup, même endroit au métro Ménilmontant. Et tout à l'heure, j'ai vu du coup que ce samedi 11 février, il y a un appel devant le tribunal de Bobigny, il me semble aussi, voilà, du coup, pour cette même affaire. Donc voilà, donc on a vu aussi sur une des nuits à Aulnay-sous-Bois, donc des tirs. À balles réelles, donc des tirs de sommation, mais quand même des tirs à balles réelles. Du coup, il y a quelques douilles qui ont été retrouvées là, quand il y a eu quelques reportages dessus aussi. Voilà, ça fait partie de l'encadrement classique, entre guillemets, malheureusement, des quartiers populaires. On vous conseille du coup là-dessus. Il y a une interview aussi de Mathieu Rigouste là, qui est sortie il y a pas très longtemps, je crois, sur le sujet. Puis en grosso modo, tous ces bouquins qui parlent pas mal de ça, pour comprendre un petit peu comment sont traités les gens dans les quartiers et quelle tactique militaire est appliquée depuis des décennies dans les quartiers populaires.
On sait déjà que c'est dans les quartiers aux alentours de Paris que la BAC a été autorisée pour la première fois à utiliser, on ne sait pas, mais en tout cas à avoir des fusils d'assaut dans le coffre de leur bagnole.
Ouais, et puis aussi hier soir, alors je suis pas sûr de l'information, il me semble que c'est ça, il y a eu 23 interpellations dans les cités.
Voisine, ouais, limitrophe en tout cas, ouais, à Aulnay-sous-Bois. Ouais.
Là, après des tirs de mortier, des tirs de feux d'artifice, qui apparemment d'ailleurs ont été assez furtifs et plutôt bien gérés.
De toute façon, ils vont essayer de trouver ça maintenant. Enfin, du coup, le truc de la presse et de l'État, ça va être de montrer, voilà, du coup, les pseudo-émeutes qu'il y a du coup dans les quartiers ces différents soirs, pour essayer de détourner l'attention de la vraie affaire, hein, du coup, qui est cette agression et ce viol de Théo par un policier, et les violences en réunion faites par les trois autres. Ce qui est assez, si vous voulez rigoler entre guillemets, hein, parce que du coup c'est très très sombre, mais si vous voulez rigoler là-dessus, vous pouvez lire le communiqué de Alliance Police Nationale, qui est assez magnifique de conneries. C'est, quand tu lis ça, tu t'hallucines, tu sais pas si c'est un faux, du coup c'est un faux communiqué, ou si vraiment du coup ils vont jusqu'au bout, et que là, donc très clairement, voilà, ils balancent dans leur truc qu'en gros, bah du coup il a inventé cette agression là, que du coup ça s'est pas passé comme ça, que voilà, etc forcément. Et du coup sur les sites de la fachosphère aussi, ça commence un peu à tourner ce genre de truc avec des hypothèses. Alors on se croirait sur les sites complotistes du coup, parce qu'ils essaient d'inventer des choses pour essayer de déjouer en fait ce qui se dit dans la presse. Alors pour une fois du coup ça tient la route, parce que On a eu peur au début parce qu'au début les gens étaient, du coup les flics avaient été arrêtés pour violence en réunion et du coup le truc du vol avait été enlevé, mais du coup ça a été remis là-dessus, donc on pense que du coup ce coup-ci au moins peut-être l'affaire ira jusqu'au bout pour ces quatre policiers là, vu la gravité des faits, tout en sachant qu'il y en a énormément qui voilà, Théo le disait, hein, voilà, il avait essayé de se mettre du coup là où il y a des caméras de surveillance parce qu'il sait que quand les flics savent où il n'y a pas de caméra, donc du coup ils tabassent dans ces endroits-là parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de preuves. Et là, heureusement, du coup, il y a eu la scène qui a été filmée du coup par un téléphone portable pour que ça puisse apporter de l'eau au moulin. Ça, parce qu'autrement, comme d'habitude, voilà, ça aurait été, ben non, en fait, il n'y a pas de preuves, il ment, etc., etc. Il n'y aurait pas eu de preuve. Là, il y a la preuve en direct, en fait, donc il n'y a pas de souci. Donc l'affaire, ils allaient à son bout. Mais voilà, sans oublier, comme tu disais tout à l'heure sur les slogans qui ont été scandés hier, c'est que voilà, c'est une victime parmi tant d'autres des violences policières.
C'est ça. Et comme on le voit souvent, enfin, c'est un petit truc qui m'a fait rire parce que j'ai eu, enfin, rire. C'est triste, mais c'est, on a dit Adama et Théo sont là pour nous rappeler pourquoi Ziad et Bouna ont couru.
Ont couru, exactement.
Voilà. Ouais. Et puis même, ce qu'on disait, ouais, à la base, c'était juste violence en réunion, que ça a été remis viol. Il y a même des élus qui ne sont pas forcément, voilà, du bord, on va dire, voilà.
Progressistes.
Progressistes, voilà, qui ont même eux-mêmes dit que... qu'il fallait qu'il y avait un problème.
Ce coup-ci, c'était indéfendable, en tout cas.
Voilà, c'était indéfendable et tout. Et...
Merde. Et ça reste surtout aussi tout le processus de criminaliser les victimes au lieu de criminaliser les
agresseurs.
Responsables quand ils sont...
Notamment quand ils ont un badge. Voilà. Tout c'est à ça, fait.
Des fois, ils en ont pas, hein, le matricule.
C'est pas faux.
Bref, on va peut-être enchaîner sur notre première pause musicale.
Vas-y, je t'en prie.
Eh ben, allons-y avec le groupe de punk du Bugey, les Concasseurs.
Ouais, c'est les copains.
Sur les ondes de Radio Canu au 102.2 avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Voilà, voilà, donc moi je vais reprendre avec des petites lectures d'articles. Donc alors, le premier pour l'introduire, c'est au sujet de Roman Polanski. Il a été nommé, précédemment nommé président de la cérémonie des Oscars du Festival de Cannes. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu dans les médias l'histoire d'un viol qui est remonté... à l'occasion de sa nomination, en fait, il est parti, il a démissionné en gros du poste Donc jusqu'à présent, il me semble qu'il a été remplacé par Pedro Almodovar. Donc je suis pas sûre des informations. Apparemment, on m'a dit que Pedro Almodovar, enfin qu'il n'y aurait personne. Bref. Donc du coup, pour les éléments d'avant, Polanski avait déjà pris un procès aux États-Unis, donc pour une affaire de viol d'une nana qui s'appelle Samantha Jamer. Je sais pas trop comment on prononce. Donc qui avait à l'époque 13 ans. Et du coup, alors l'article va expliquer un petit peu la médiatisation un peu particulière de l'affaire et surtout en fait de l'article de Eric Métou, qui est directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Et du coup, dans son article, qui essaye de, en gros, dédouaner Roman Polanski de manière assez patriarcale. Donc voilà, je vais vous lire l'article. C'est l'article d'une... d'un blog féministe qui s'appelle Crêpe Georgette. Donc voilà, genre tenu par une féministe. Ces articles sont très très chouettes, vous pouvez aller voir. Donc, qui se trompe de combat ? Sûrement Eric Métou. Au dire de beaucoup, les féministes ont une rare propension à se tromper de combat, à ne pas différencier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à confondre l'accessoire et le nécessaire, à exagérer et au final à desservir leur cause. Nous devrions ainsi nous consacrer au seul combat que sont les violences sexuelles et conjugales. Étonnamment, lorsque nous choisissons d'en parler, il semble que là encore, cela ne soit pas de la bonne façon. Ainsi, à chaque affaire médiatisée de violences sexuelles, il se trouve quelqu'un pour nous montrer qu'on a encore une fois pas tout à fait compris ce qui s'est réellement passé, qu'on se trompe de combat ou qu'on ne comprend décidément rien à ce qu'est un viol. C'est ainsi qu'Éric Métou, directeur adjoint de la rédaction de L'Express, consacre généreusement un article entier à nous expliquer à quel point nous sommes dans l'erreur face à Roman Polanski. Éric Métou nous explique tout d'abord les excellentes raisons qui ont fait fuir Roman Polanski au lieu de faire face à la justice. Ce serait, je cite, « le climat dans lequel, à l'époque, se serait déroulé ce procès. On comprend qu'il ait hésité à s'y rendre comme le mouton à l'abattoir. Il ne m'avait pas semblé que les États-Unis de la fin des années 70 ou d'un quelconque autre lieu ou moment, soit dit en passant, réservaient des peines particulièrement iniques et injustes aux criminels sexuels. » Je serais donc curieuse de voir quel jugement ou quelle politique pénale ont pu laisser penser à Éric Métou que les criminels sexuels étaient injustement traités. Je serais en ce cas tout à fait d'accord pour que nous lancions conjointement une pétition en leur faveur pour des traitements plus dignes et plus humains. Petite ironie. Éric Métou prend ensuite soin de nous expliquer que Roman Polanski a reconnu des relations sexuelles illégales, donc le fait d'avoir des rapports sexuels avec une mineure, mais pas le viol, ce qui constitue selon lui une preuve irréfutable qu'il n'y a pas eu de viol. Alors en effet, si on doit se fier à la parole des violeurs présumés pour juger de leurs actes, je pense que nous pouvons dorénavant dire que le viol a définitivement disparu de nos contrées et nous en féliciter. Faisons néanmoins un bref rappel des faits. En 1977, Roman Polanski a 43 ans. La victime, Samantha Jamer, a 13 ans. Il est une star mondialement connue, réalisateur entre autres de Rosemary's Baby et Chinatown. Donc une jeune fille de 13 ans fait face à un homme de 43 ans. Est-elle apte à donner un consentement sexuel valable ? La réponse est non. Une jeune fille de 13 ans face à un homme mondialement connu, célébré et admiré, qui est donc en position d'autorité, est-elle apte à donner un consentement sexuel valable ? La réponse est non. Une jeune fille de 13 ans, et cela vaut aussi pour n'importe qui, qu'on drogue ou qu'allude, donc je ne sais pas ce que c'est, est-elle apte à donner un consentement sexuel valable ? La réponse est non. Une jeune fille de 13 ans à qui on fait consommer de l'alcool, est-elle apte à donner un consentement sexuel valable ? La réponse est non. Pour toutes ces raisons, il y a bien eu viol de Samantha Jamer par Roman Polanski en 1977. Est-ce que Polanski gêne ? Ce qui gêne, c'est les moyens déployés affaire après affaire pour défendre les hommes accusés de violences sexuelles. Ce qui gêne, c'est aussi de qualifier le viol d'une adolescente qu'on a préalablement droguée de pas glorieux. Ce qui gêne, c'est qu'au fond, tant qu'un homme a du talent, de l'entregent, une sacrée liberté de ton ou que sais-je, il se trouvera toujours un autre homme pour le défendre, l'excuser ou minimiser ses actes. Donc voilà, c'est encore la justice patriarcale qui se prononce.
C'est un article du coup d'un personnage de L'Express, mais il y avait tellement depuis cette affaire-là. Il y en a eu très récemment, Finkielkraut aussi, donc, qui défendait en disant que c'était pas un viol, etc. Enfin, du coup, la défense d'un artiste fait toujours gerber quoi, du coup, sur ce genre de situation.
Bah oui, puis en plus c'est toujours les mêmes, les hommes célèbres qui vont justifier les actes de leur, de leurs congénères face à des victimes qui n'ont jamais la place de s'exprimer.
Après, ce qui est plutôt rassurant, c'est que là, ça a marché, du coup, donc il a renoncé, entre guillemets, mais en gros, même s'il avait continué, ça aurait engendré beaucoup de choses, parce que le rapport de force, du coup, s'est inversé sur ce coup-là, grâce à la mobilisation. On sait que ça n'a pas été le cas tout le temps, parce qu'il avait été aussi invité sur d'autres festivals de cinéma, et il n'y avait pas eu de soucis, enfin, ou du coup, un peu moins, et du coup, il avait continué à y être. Là, au moins, c'est fait, il est dégagé, même s'il prend le truc de dire c'est moi qui m'en vais, alors qu'on sait très bien que de toute façon, il ne pouvait pas rester. Au moins, c'est ça de fait, voilà.
Oui, puis je pense qu'il y a eu aussi, excuse-moi, un gros mouvement avec. Avec les manifestations, les Women's March contre l'investiture de Trump et tout, ça fait un gros mouvement quand même contre ces questions-là qui sont toujours justifiées. Enfin voilà, c'est un peu l'écho des propos de Trump, du coup, la réponse quoi, qui est donnée.
Ah, et puis même sur les artistes à ce niveau-là, c'est comme en France, enfin, on a eu Bertrand Cantat aussi qui...
Oui, bah ça, on peut en citer à l'appel, hein, artistes.
Mais c'est, mais c'est juste un exemple, mais toujours remise en cause.
Ah, c'est clair.
J'entends même à côté, moi qui écoute plutôt ce genre de musique, genre on dit, ouais, Bertrand Cantat, non, mais c'est un artiste, c'est pas bien grave et tout, mais enfin, même s'il est, c'est un très bon artiste, à côté, c'est un être humain, enfin, pitoyable.
Oui, bah oui, après c'est toujours la question aussi de est-ce qu'on on légitime, est-ce qu'on continue d'apprécier l'art de quelqu'un qui est humainement dégueulasse. C'est un grand débat qu'on n'abordera peut-être pas tout de suite.
De toute façon, ça arrive partout dans le monde. Je peux pas donner 50 exemples là maintenant, mais...
On l'avait fait une fois sur une émission, moi j'avais lu un article où il y avait au moins une vingtaine d'artistes, de chanteurs qu'on pouvait, voilà... Pour violence, pour, etc., pour viol, etc. Enfin,
sur l'impunité dont ils ont droit dans la société.
C'est que les gens pensent que c'est juste parce que c'est des très bons artistes, ils sont invulnérables, mais c'est pas parce que tu fais des bons films ou de la bonne musique que t'as le droit de te permettre tout et n'importe quoi, surtout à ce niveau-là.
Bref, j'enchaîne avec l'article d'après. Donc c'est court, ça se passe en Zambie, c'est à propos d'un jour de congé pendant les règles. Donc pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses, la Zambie vient de décider d'accorder un jour de congé par mois à ses habitants. Le gouvernement zambien a en effet estimé que les femmes seraient plus productives après s'être reposées. Et la loi stipule également que tout employeur qui refuserait ce congé à une employée pourrait être poursuivi. Le gouvernement du pays a décidé de nommer ce jour de congé le « jour des mères », entre guillemets, car théoriquement, ce repos n'est accordé qu'aux femmes qui sont déjà mamans d'un ou plusieurs enfants. Dans les faits, toutes les femmes peuvent en bénéficier. Et la phrase qui casse un peu tout, attention toutefois à celles qui voudraient profiter de ce congé spécial pour faire des emplettes ou autres loisirs, elles peuvent être dénoncées et licenciées sans préavis. Donc bon... On remarquera quand même la petite progression un peu bof-bof sur la condition de la femme, même si ce congé c'est quand même un petit progrès. Voilà, c'est toujours la vision
des nanas
qui vont profiter de ça, alors qu'en fait, c'est tout le truc de prendre un jour de congé et puis surtout souffre en silence. Voilà.
On devine un peu qui a écrit cet article. À mon avis, c'est pas une femme. du coup, on va enchaîner du coup, avec les luttes. C'est déjà 20h35.
Eh ben, on va y aller. Allez, c'est parti avec la grande maison Solvay. C'est à Mel, dans les Deux-Sèvres. Et c'est dans la chimie. Hein, on est dans la chimie ici. C'est aux alentours du 25 janvier avec une grève de 150 salariés, quand même, soit 90% de l'effectif. Grève qui a été reconduite donc par les salariés, le rang intersyndical CGT-CFDT. Et EFO aussi, qui était là en soutien. L'effectif est précisément sur la sellette, puisque les revendications exigent l'augmentation donc, de ces effectifs. Les acquis sociaux également qui s'effilochent, et les conditions de travail de jour, de nuit, les 5 fois 8 imposés, 3 horaires différents, jours fériés et travaillés, rappel d'ouvriers en repos pour le remplacement aussi des arrêts maladie. C'est vous dire que la vie est belle chez Solvay, donc tout ça, c'est bien cause des grandes incertitudes aussi sur certaines productions, en fait, qui empêchent le site de Mel, qui est classé Seveso 2, il faut le dire, donc les productions, point d'interrogation, Solvay, en fait, ces productions, les revend depuis 2004 et 2009, et augmente en fait la quantité à produire de celles qui restent. On appelle ça de l'optimisation. Merci Julien. Plus avec moins de plus, donc produire plus avec moins de personnel. Ben aussi étaient mentionnés les intérimaires qui sont là encore sur des conditions encore plus évidemment gravissimes. À Montluçon, ben c'est un hôpital. Le service chirurgie, c'est la grève. Et sur le billard, je dirais, c'est-à-dire reconductible, les conditions d'opération, enfin, sans plaisanterie, grâce de ma part, enfin, je veux dire, de travail plutôt, hein, donc repos, remplacement, tout ça, oh, ben, ça t'est jeté aux orties, s'accumule. Les gériatres ont suivi le mouvement, donc le service gériatrique de cet hôpital a suivi le mouvement et emboîté donc le pas. La CGT et FO attendent d'autres services aussi qui se joindront à cette grève. Les contacts avec la direction, vous avez le bonjour de la biquette ici, puisqu'il n'y a rien, hein, nada. Le service administratif devrait suivre également. Alors une note au passage, c'est un rappel que je le fais assez souvent, c'est que 22 000 postes donc dans l'hôpital public doivent disparaître d'ici la fin de l'année. Et je dirais merci Marie Orsol, je dirais presque, parce qu'elle n'est pas du tout dans le coup, quoi. Petit jeu de mots de ma part.
Magnifique.
Hein. Donc, toujours dans ces conditions, donc 3 milliards d'euros d'économies, hein, c'est un chiffre qui a été donné en 2015, dont 860 millions issus de la maîtrise de la masse salariale. Et rapprochement donc des hôpitaux voisins, 450 millions d'euros quand même d'économies, c'est le fameux regroupement des hôpitaux. Et la suppression de lits, le développement de... On voit ici le développement qui a été mis en place de la chirurgie ambulatoire, qui amènera donc une économie de 400 millions d'euros dans le système de santé public. Nestlé, maintenant, il y a en ce moment des pourparlers, hein, je ne sais pas si vous avez entendu ça, de suppression d'emplois dans la grande maison de Nestlé. Suppression de postes en masse dans certaines grosses boîtes aussi, hein, on en a parlé aussi, je pense qu'il y aura encore des suites à ça, on appelle ça des dégraissages. C'est le cas donc à Nestlé, Nestlé France, 13 000 postes quand même à supprimer, hein, en France. La multinationale souhaite rationaliser et mutualiser. Oh, les jolis mots dans la bouche des patrons. Rationaliser et mutualiser, donc, sont les deux mamelles de Nestlé, numéro un quand même mondial dans l'agroalimentaire, et veut le rester, donc, dans l'agroalimentaire. 22 sites français qui sont dans le collimateur, ainsi que 5 centres de recherche. Alors, tout y passera, hein, et probablement sans trop de dommages sur le plan financier pour Nestlé. Alors, pas de même, évidemment, pour les salariés. Merci, M. Valls. Merci, Mme Comrie. Merci, M. Hollande. Merci, le PS et les satellites donc, qui ont bossé sur cette nouvelle loi du travail. 1,87 milliard d'économies pour Nestlé. Alors, le premier visé, c'est le siège qui se trouve en Seine-et-Marne à Noisiel. 300 personnes donc, vont partir. Leur travail, la direction, les pays, ça ira dans les pays où la manœuvre ne coûte rien ou peu, ce qui est déjà trop pour Nestlé, pour la pieuvre, hein, de VV, hein, c'est son autre nom. La pieuvre de VV, c'est pour vous dire qu'elle étend ses tentacules un peu partout, elle saisit tout ce qui se passe, tout ce qui passe à sa portée. Alors, autre donc appellation, je le disais, hein, la pieuvre de Vevrey, donc, et ses multiples ramifications. Alors, une info du comité central d'entreprise, légère comme un nuage de lait. Alors, on attend, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, ça vient du CCE, hein, donc on attend et finalement la bagarre. Et je dis là, encore une fois, à suivre. À Paris, c'est une victoire, une suite, donc il y a une lutte avec une victoire. J'en ai quand même une de temps en temps à vous mettre sous la dent. C'est chez Gibert Joseph, dans le 6e arrondissement de Paris.
Je l'avais.
Tu l'avais aussi, trop tard pour toi. Donc, ils ont repris le collier le 25 janvier, suite à 4 jours de grève pour 65% du personnel qui était solidaire d'un collègue qui avait été ennuyé parce que syndiqué. syndicat, la CGT en plus, ce qui n'arrange rien, jusqu'au licenciement pour altercation avec un responsable. La direction a finalement capitulé et accepte de discuter, de négocier sur les conditions de travail, c'était ce qui était sur la feuille des revendications, et matérielles et morales également. Donc, je dirais tout un programme. En Gironde, cette fois, c'était au 26 janvier, avec une grève toujours active des ARM, c'est-à-dire les assistantes de régulation médicale du SAMU 33. Autrement dit, c'est le 15. Voilà. Donc, cette grève avait démarré le 10 janvier. La grève a pour but de décider la direction et la préfecture associée, pour ne rien faire, de les forcer à embaucher. Les grévistes exigent 8 personnes à temps plein, une organisation d'équipe jour et nuit, le maintien de l'amplitude horaire actuelle. Elles assurent le suivi quand même depuis la prise en charge des secours jusqu'à l'hospitalisation. Les conditions de travail sont loin d'être favorables. Voilà donc leur colère. Est-ce que je continue ?
Oui. Ouais, un peu, vas-y.
Allez, encore une fois, une petite. C'est à La Souterraine, encore, c'est une suite. La Souterraine, c'est dans la Creuse. J'avais un petit peu rigolé avec ça la semaine dernière. Comme je le disais la semaine dernière, donc la suite, c'est que la société GM et S, société en difficulté, travailleurs en combativité depuis novembre 2016. Un petit mieux à signaler, le 27 janvier, les 250 personnes donc, qui étaient en lutte ont appris que la liquidation judiciaire avait du plomb dans l'aile, blessée mais pas morte, attention, une bête sauvage, quand elle est blessée, elle est beaucoup plus dangereuse, métaphore. Voilà, donc la période d'observation est reportée au 17 mars. Les salaires seront payés, écoutez bien, 1,7 million d'euros avancés par les banques sous garantie de la BPI, Banque Publique d'Investissement, et donc notre fric, et le Conseil Général. Comme quoi, ce n'est pas gagné du tout, mais la lutte paye quand même, puisque ce même conseil avait été occupé en novembre, rappelle, et que les sociétés Peugeot et Renault, les principaux clients de cette entreprise, avaient connu aussi le courroux des grévistes, notamment à Limoges, et des établissements aussi de la Creuse et de l'Allier, de Lyon également, avec soutien des salariés de ces établissements, quand même, faut le signaler. Et depuis, pour dire, avoir un petit peu plus de précision, que depuis 1990, les salariés qui étaient au nombre de 600 à l'époque ont connu des rachats, des plans de licenciement à tout va. Aujourd'hui, ils sont 283, dont 250 dans l'action de sauvetage de l'activité. Pour terminer, cette fois, on reste sur l'industrie automobile avec Ford Aquitaine Industries à Blanquefort, du côté de Bordeaux. Donc, nouvelle année, nouvel épisode en cette fin janvier dans ce 33, le département 33. Alors, toujours la même question, le maintien de l'emploi. Les salariés sont inquiets, si bien que la FAI, donc Ford Aquitaine Industries, aujourd'hui ça s'appelle forte augmentation de l'inquiétude. C'est de moi. Et le 23 janvier, c'était usine morte, une journée usine morte, avec des infos largement distribuées aux travailleurs de l'entreprise et aussi du secteur, sur le site où se trouve FAI, où se trouve Ford. Forte mobilisation en manifestation aussi à Bordeaux par la suite. Se sont joints dans cette lutte des cadres, des ouvriers, des employés, enfin tout le monde, tous y étaient, 400 personnes quand même. Les syndicats également en ordre de bataille avec la CGC, la CFTC, FO, la CGT. Le site compte encore 930 personnes qui sont en CDI. Il y a de quoi pour les patrons de FAI donc de dégraisser. Et ça sera apparemment en. Il paraît en fait que ce sera en 2018, la fin. La décision devrait venir cet été, selon les sources, par la maison mère Fort de France, Europe. Ceci est une très longue histoire. 100 fois l'usine devait fermer. On fabrique des boîtes de vitesse, hein, pour précision également ici. 100 fois les salariés ont redressé la barre par la lutte. Mais quand le patronat a décidé, eh bien, le verre est dans le fruit et il ronge au cœur jusqu'à plus fin. Voilà. Donc, je pense qu'un de ces jours, on va dire, Closed a failli à Ford à Blanquefort. Voilà.
Est-ce que dans tes autres luttes, tu avais la lutte dans les Bouches-du-Rhône des McDo ?
J'ai pas ça.
Je le fais du coup alors. Du coup, il y a une grosse mobilisation du coup via l'UDCGT des Bouches-du-Rhône, les unions locales du département, les camarades de la Fédération du Commerce, et donc s'étaient rassemblés devant un McDonald's, celui de la Blancarde, pour soutenir les salariés qui étaient en grève ce jour-là. Voilà, si les salariés du McDo réunis à la Blancarde étaient en grève pour obtenir le renouvellement du matériel vétuste et pour des conditions de travail décentes, ils étaient aussi en grève pour les augmentations de salaire. Cette lutte est dans la continuité du mouvement social initié par des salariés américains de McDonald's qui revendiquaient d'être payés $15 de l'heure. Ils l'ont obtenu dans pas moins de 6 États. La firme McDonald's domine la planète comme jamais, réalise des chiffres d'affaires qui dépassent les budgets de pays entiers, alors que, paradoxalement ou pas, les salariés de McDonald's sont les salariés les plus mal payés dans chaque pays du monde. Et du coup, il y a une étude assez intéressante, parce que du coup, ce qui prouve bien aussi la tactique managériale sur ces McDo-là. Parce que d'après l'INSEE, dans le secteur de la restauration, donc la moyenne de durée d'un contrat est de 3 ans. Voilà, la moyenne de contrat de travail. Ce qui signifie qu'un salarié ne reste en moyenne pas plus de 3 ans dans l'entreprise. Ceci pour plusieurs raisons. D'une part, les conditions de travail et de salaire sont tellement intolérables que ce sont les salariés qui démissionnent, avec dans la majorité des cas des ruptures de CDI, rincés, épuisés, dégoûtés, parfois même abîmés par le travail. D'autre part, dans une période de chômage extrêmement élevée, les travailleurs sont contraints d'accepter les conditions d'emploi les plus défavorables, à commencer par le CDD. Enfin, l'acte de rébellion est condamné avec férocité par les patrons. Le harcèlement, les changements de poste et d'horaire, les mutations sur d'autres restaurants, le licenciement, voilà à quoi s'engage celui qui commet la moindre acte d'insubordination quand il est seul. À un point tel que ces entreprises vont jusqu'à avoir un budget prud'homme annuel. Bon, ça, c'est pas les seuls. Hein. Je pense à un truc aussi, une asso, ils ont un beau budget prud'homme aussi. Par rapport à l'attaque des patrons, on avait vu, hein, nous, sur Lyon aussi, hein, il y avait plusieurs grèves, notamment sur le McDo de la Guille, celui aussi qui a Sans Souci, voilà, notamment avec un délégué syndical qui avait été attaqué plusieurs fois pour essayer de le faire craquer. Donc les discriminations syndicales et le turnover des effectifs salariés sont si forts que cela empêche les salariés de résister, de se défendre, de syndiquer. Et c'est bien pour cela que les conventions collectives de la restauration sont parmi celles qui offrent le moins de droits aux salariés. Voilà, plusieurs des camarades CGT ont été licenciés pendant plusieurs années, mais déterminés à ne pas subir l'injustice, ils se sont battus jusqu'à obtenir leur réintégration. Donc voilà, après il y a un appel à nous, travailleurs du public et du privé, du commerce, du nettoyage, du port, de la restauration, des hôpitaux, travailleurs au chômage, aux blagues, sommes fiers de nous battre à leur côté. Donc voilà, donc on suivra aussi ce qui se passe par rapport à ça. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on fasse une autre pause musicale la soirée. Hein, ça va être.
Je me posais la question. En plus, la chanson que tu m'as proposée est assez longue.
Donc ouais, c'est déjà 20h50. Je pense qu'on va.
On va peut-être la squeezer. Hein.
On va enchaîner un peu. On va revenir sur une affaire dont on avait parlé il y a quelques semaines, de Danko Sissoko. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Du coup, c'était cette personne là qui avait sauté, qui s'était défenestrée, qui s'était tuée. On verra, voilà, qui c'était de son centre. Voilà, donc il y a des trucs assez atroces qui sont passés après, parce qu'on se rappelle Danko Sissoko, il a fait partie des personnes, très nombreuses, hein, donc à subir des tests osseux et qu'on déclarait menteur, parce que c'était quelqu'un de mineur, mais qu'on déclarait majeur, voilà, à cause de ces fameux tests osseux qui n'ont aucune valeur scientifique. Donc voilà, donc le premier truc bien crade, bah, que c'est Danko Sissoko a été reconnu mineur après son suicide. Donc voilà, on imagine bien le truc de fou quand même. Et l'éducatrice qui avait dénoncé la situation, eh ben, a été mise à pied. Voilà, donc l'association La Sauvegarde de la Marne donc réclame donc le licenciement de l'éducatrice qui avait dénoncé la situation des mineurs isolés étrangers dans ce département. En revanche, rien n'a été mis en place pour assurer de meilleures conditions d'accueil et de suivi, malgré le suicide de l'un de ces jeunes donc en décembre dernier. Donc rien n'y aura fait, ni la création d'un comité de soutien, ni la pétition qui depuis le 29 janvier a déjà recueilli plus de 2500 signatures, ni la manifestation organisée le 30 au matin devant les locaux de l'association La Sauvegarde de la Marne, à qui le Conseil Général sous-traite l'accueil et le suivi des mineurs isolés étrangers du département. L'association a donc prononcé récemment une mise à pied conservatoire en vue d'un licenciement pour faute grave à l'égard donc de Ibtissem Bouchara, éducatrice spécialisée, sanctionnée pour avoir dénoncé publiquement les conditions d'accueil et de suivi des jeunes migrants après donc le suicide de Denko Sissoko le 6 janvier dernier. Le 11 janvier, Nkoule avait répondu aux questions des médias locaux lors de la marche blanche organisée en mémoire donc de Denko Sissoko et avait saisi le défenseur des droits. Et donc depuis, donc, Ibtissem donc Bouchara, qui élève seul ses deux enfants, n'est plus payé. En effet, la mise à pied conservatoire consiste à débarquer le salarié immédiatement et sans salaire. C'est une sanction prononcée lorsque l'employeur estime que le maintien du salarié représente un danger pour l'entreprise. On imagine quand même. Hein. Ce qui lui est reproché donc, c'est d'avoir tenu des propos diffamatoires, entre guillemets, hein, à l'égard de l'association et qu'elle ait dénigré le conseil départemental de la Marne, principal financeur de la sauvegarde. Donc Jean-Claude Aubert, le président de la sauvegarde de la Marne, qui a refusé de répondre à nos questions, voilà, tout comme le département, prétend donc qu'elle s'est exprimée au départ en tant qu'éducatrice et non pas comme déléguée du personnel. Comment il peut le savoir, ce brave monsieur? Donc, ce que refute forcément l'intéressé, déléguée du personnel Sud Santé Sociaux depuis décembre, elle dément avoir diffamé qui que ce soit dans cette affaire. Elle ne comprend pas dans quel danger elle ferait du coup courir aux jeunes et pourquoi elle ne pourrait pas revenir travailler. Elle va être fixée sur son sort donc d'ici une dizaine de jours. Mais donc pour Michel Aubry, ex-directeur à la sauvegarde et syndicaliste CGT, il ne fait aucun doute que l'association ira jusqu'au bout, quitte à prendre le risque de perdre au prud'homme, vu qu'ils ont apparemment un budget pour... Ibtissem Bouchara, donc bénéficiant de la protection accordée aux délégués du personnel suite à son élection en décembre dernier, son employeur devra donc solliciter l'avis du comité d'entreprise qui lui est acquis, mais qui n'est que consultative, et aussi du coup de l'avis de l'inspecteur du travail. Donc voilà, on suivra un peu ça. Il y a quand même du coup une riposte qui est organisée, une autre pétition du coup qui a été lancée le 29 janvier, donc de soutien à l'éducatrice. Cette pétition donc a recueilli 3500 signatures. Le comité de soutien rassemble donc de nombreuses organisations, parmi lesquelles le GISTI, un groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, l'ADMI, Association de défense des mineurs isolés étrangers, la BAM, Bureau d'aide et d'accompagnement migrants, et Solidaire Marne. Mais elle est aussi soutenue par l'ensemble des syndicats de la sauvegarde et la Ligue des droits de l'homme. Ironie du sort, alors que l'éducatrice est en instance de licenciement et donc suspendue sans salaire, il se trouve que Philippe Colautti, qui n'a pas pu être sollicité sur le dossier du licenciement en tant que directeur général, même s'il est parti en vacances depuis, a été décoré de l'Ordre national du mérite en avril 2016. Une merveille. Donc voilà, il y a du coup une dernière petite conclusion par rapport à Denko Sissoko. Donc après son décès, donc le collectif Un geste pour Denko donc avait lancé une cagnotte solidaire sur internet afin de financer le rapatriement de son corps au Mali. En effet, ni le département de la Marne ni la sauvegarde ont accepté de participer aux frais. Comble du cynisme, lors de l'entretien du 30 janvier qui s'est soldé par la mise à pied donc des Ibtissem Bouchara, elle a même été interrogée sur sa participation à cette collecte de fonds, comme si cela constituait une circonstance aggravante. Pour ce qui est de la mort de Denko, voici ce que donc Marie-Pierre Bayard, militante de RESF dans la Marne, écrivait ce matin sur son compte Facebook. Aujourd'hui, nous avons déjeuné avec l'oncle de Denko, venu à Reims avec d'autres représentants de villages maliens pour la levée du corps. Beaucoup d'émotions face à ce vieil homme handicapé et visiblement très ébranlé. Denko savait très bien que son oncle ne pouvait rien pour lui, vu ses conditions de vie. Il s'était vu la dernière fois en 2014. Denko était encore un enfant. Il l'accompagnera demain pour remettre son corps à ses parents, à ses deux petits frères et participer aux funérailles. Marie Barrière-Barrière donc explique aussi que sur l'acte de décès de Denko et sur tous les documents administratifs, sa date de naissance, eh ben c'est bien le 2 mars 2000. Cet adolescent qui avait traversé la Libye et l'Italie pour venir en France allait donc avoir 17 ans. Il aura donc 16 ans pour toujours et malgré ce qu'il a juste voulu savoir en le déclarant majeur. Voilà une fin bien triste pour cette affaire-là. Tu en fais 2-3 luttes peut-être ? Du coup, ça permettra de finir l'émission. On reprendra quelques annonces après derrière pour finir.
Je vais bien en faire encore une ou deux, oui. On va aller à Champfort-Goy maintenant, mais je n'ai pas noté le département, peu importe. C'est important, c'est chez cette boîte, la Gardie Schneider électrique, où l'ambiance l'est aussi, hein, électrique. 120 salariés mobilisés, piquet de grève, les salaires évidemment en question, une proposition patronale qui ne passe pas les 0,6%, une misère, donc pour tout le monde, pour tout le monde et 0,1% en parité homme-femme. Donc les grévistes en exigent 1,3 pour tous et 1,5 sur les grilles des derniers arrivés, donc les bas salaires, et 130 euros de plus sur la prime annuelle. La CGT, FO et la CFDT, qui représentent donc l'intersyndicale, qui cafte que le patron s'est additionné, lui, un 19% quand même de hausse de salaire.
Tout à fait, normal. Hein. C'est comme notre cher Wauquiez qui apparemment s'augmente doucement pour ne pas avoir à dormir dans sa voiture.
Il parlait de Wauquiez.
Le Wauquiez qui s'augmente un petit peu parce qu'il a peur de dormir dehors.
Et maintenant, je vais aller parler de Narbonne, donc la bonne ville de l'Aude, là, avec un centre, encore une fois, un centre hospitalier en grève, enfin du moins un service. Hein. Il y avait 3 jours de grève au service du laboratoire, donc que les personnels qui ont été réquisitionnés, évidemment, ça se passe toujours comme ça dans la santé, hein, réquisitionnés par la direction au début février, car c'est une pièce importante dans l'établissement. Alors, il y a eu des tracts d'information, de soutien demandés également, pétition au public pour plus d'effectifs sont dénoncés sont dénoncés donc la diminution de cet effectif. Alors ça chauffe entre FO et CFDT et la direction, style on ne parle plus, on ne se parle plus. 5% de grévistes quand même ici, avec donc 28 personnes quand même en souffrance, hein, dans ce service. À Annonay, dans l'Ardèche, ce sont des retraités qui gagnent ici contre leur patron, leur ex-patron RVI, alias Iveco Bus, qui leur a fait bouffer de l'amiante en poudre, en poussière, pendant toute leur carrière de travailleurs et travailleuses. On nomme cela aujourd'hui un préjudice d'anxiété. Et il y en a pas mal, hein, de ce genre de procès. Annonay, qui est le site, a été classé amiante en 2007. Des indemnités sont exigées, bien sûr, dans cette lutte. C'était en 2014, obtenu une première fois par les prud'hommes, puis en cour d'appel une seconde fois, et enfin en cassation. Suite tout ça aux appels évidemment d'Iveco pour ne pas payer. Une cinquantaine d'ex donc RVI Iveco seront indemnisés, sachant qu'ils étaient plus que ça. Certains sont décédés, hein, faut dire que l'amiante tue toujours en fait, hein. Et puis d'autres qui n'ont pas voulu suivre dans la lutte. Voilà, il faudrait peut-être qu'on pense un petit peu, avoir un petit temps pour le rappel des...
Ouais, ou je fais un dernier petit truc du coup, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir pour l'instant du monde derrière, puis qu'on a commencé un peu à la bourre, on va en profiter pour finir sur un petit fait divers encore du coup sur la culture du viol, mais qui s'inscrit très tôt, quel que soit l'âge du coup des victimes. Voilà, une anecdote qui s'est passée du coup au mois de septembre 2015. Donc c'est la maman du coup, hein, qui raconte du coup ce qui s'est passé. Donc tout a commencé le 28 septembre 2015. Zoé, donc ma petite dernière de 4 ans, est alors nouvellement scolarisée dans la commune où j'ai grandi et où vivent mes parents. Le soir, je vais la chercher chez ses grands-parents qui l'ont récupérée à la sortie de la maternelle. Donc ma mère m'informe que la petite n'est pas dans son assiette. Son institutrice, une amie, m'appelle au même moment. Elle souhaite me raconter un événement qui s'est produit pendant la pause déjeuner. Zoé a été retrouvée derrière une cabane dans la cour, tenue au sol par 3 garçons. Le pantalon et la culotte baissés, alors qu'un 4e garçon tenait un bâton qu'il venait d'introduire dans son sexe. Je tombe des nues. Les ADSEM ont alerté la maîtresse à son retour, avant la reprise des classes, de ce qui s'était passé. En revanche, personne n'a pensé à nous appeler ou à prévenir la grand-mère venue la récupérer, qui a pourtant demandé des explications après avoir constaté une griffure sur le visage de Zoé. Le soir, autour du dîner, chacun prend la parole pour raconter sa journée. Lorsque vient son tour, la petite dit mot pour mot. J'ai eu un problème grave aujourd'hui à l'école. 4 garçons de ma classe m'ont attrapé de force, mis par terre. Il y en a 3 qui m'ont tenu de force. Moi, je voulais pas et je criais. Et il y en a un qui m'a baissé le pantalon et la culotte et m'a mis un bâton dans la minette. Ça m'a fait mal et j'étais en colère. Avec mon conjoint, nous décidons de nous rendre à l'école pour avoir des explications dès le lendemain matin. Nous sommes reçus par l'institutrice, une ADSEM et la secrétaire de mairie aux affaires scolaires. Elles nous refont le film et expliquent que les garçons ont été punis. À côté de nous, un père dispute son fils, l'un des garçons concernés, mais nous ne pouvons pas en rester là. Pour comprendre comment un enfant de 4 ans a pu avoir une telle idée, et aussi pour montrer à Zoé que cette affaire est grave et que sa parole est importante, nous décidons donc d'aller porter plainte. Sur le chemin, nous croisons la maire de la ville, que je connais personnellement. Elle nous dit être au courant de l'histoire et nous demande de rester discret, entre guillemets, pour le bien de notre fille. Pour elle, ce sont, entre guillemets, des jeux d'enfants, et il est préférable que les gens ne soient pas au courant. Nous sommes furieux. À la gendarmerie, nous faisons notre déposition. Le motif indiqué, donc viol sur mineur en réunion. Zoé doit être auscultée, mais l'hôpital du coin n'est pas en capacité d'établir une constatation formelle. Nous sommes donc redirigés vers un médecin légiste qui constate des lésions vaginales. Zoé est entendue par les autorités et vue par un psychiatre. Les garçons sont entendus à leur tour avec leurs parents. Tous les enfants donnent la même version. Plus tard, nous prenons rendez-vous donc avec la mairie pour parler du retour à l'école de Zoé. Si elle ne souhaite pas revoir ses agresseurs, c'est elle apparemment qui doit donc changer d'école et pas eux. Nous acceptons avec tristesse, mais nous avons besoin d'un certificat de radiation délivré par la direction. Le moment de rencontrer la directrice serait-il enfin arrivé ? Dès son arrivée, mon conjoint se voit refuser l'entrée de l'établissement. Le certificat donc de radiation lui est amené directement au portail. Nous comprenons que la directrice, comme la municipalité, fuit ses responsabilités. Malgré le soutien psychologique promis par l'académie, nous ne serons jamais recontactés et devrons donc amener Zoé chez un psychologue à nos frais. L'année passe, une autre recommence. Zoé est scolarisée dans une nouvelle école quand, en octobre 2016, la gendarmerie nous convoque. Ils nous annoncent que l'affaire a été classée sans suite, comme ils s'y attendaient. Dans la case où doit apparaître le motif, il n'y a rien d'écrit. Nous sommes résignés, notre fille ne sera pas officiellement reconnue comme victime. La nouvelle est d'autant plus difficile à avaler que le 18 janvier, j'apprends mon signalement auprès de la gendarmerie pour propos outranciers de la part de la directrice de l'ancienne école de Zoé. Elle m'accuse de l'avoir diffamée au cours d'une conversation publique sur Facebook que j'ai eue avec ma cousine, également signalée à propos de la sécurité de nos enfants dans les écoles de notre commune. Donc voilà. Donc aujourd'hui encore, nous devons donc nous justifier, malgré l'absence totale de soutien de la part de la municipalité ou de l'école, de notre mécontentement. Zoé, de son côté, va bien, mais elle n'a pas classé l'affaire, elle. Elle a intégré tout cela est une mauvaise expérience et en reparle régulièrement, y compris dans des contextes inappropriés, preuve d'un traumatisme. Voilà. Très tôt, malheureusement, voilà. La culture du viol qui s'installe dans la société. 21h01. Tout à l'heure, j'ai oublié une annonce et je vais me faire engueuler. J'ai oublié l'annonce importante du coup. Voilà. Je sais pas si les camarades de Toulouse écoutent l'émission, mais du coup, si vous êtes encore à l'antenne, voilà, tout à l'heure, on a oublié de parler. Si vous êtes sur Toulouse, du coup, ce vendredi 10 février. Voilà, donc, avec les camarades de la CGA Toulouse, donc, organise un concert de soutien, du coup, à la Plume Noire. Voilà, on vous rappelle pas l'attaque qui a lieu au mois de novembre.
Pour la Plume Noire.
J'ai dit quoi?
À la Plume Noire.
Oui, c'est pour la Plume Noire et ça se passe donc à Toulouse, au centre social autogéré, voilà, avec une soirée de concert, une boue, voilà, tout ça en soutien à la Plume Noire. Donc on remercie grandement les camarades, les super camarades de Toulouse. On a eu des soutiens, c'est vrai, un peu de partout en France. Voilà, c'est un concert qui a lieu. On aurait bien aimé avoir ça sur Lyon, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, on remercie bien les camarades de Toulouse. On espère qu'il y aura du monde. Donc voilà, que ça se passera bien cette soirée et que voilà, ça fera un peu d'argent pour la Plume Noire pour réparer tout ce qu'il y a à réparer.
C'est quoi la date exactement?
C'est vendredi 10. C'est ce vendredi, donc c'est dans deux jours à Toulouse, au centre social autogéré. Donc voilà pour l'annonce qui a été oubliée. Pour les autres annonces, on va peut-être s'arrêter là. Vous réécoutez l'émission qui va être mise rapidement en ligne sur le blog de l'émission. Et puis vous pourrez, c'est en tout début d'émission, toutes les annonces des activités qu'on vous a proposées pour cette semaine et ce week-end.
Ne t'avance pas trop.
Si, tout à fait, ce sera mis en ligne très rapidement.
On surveillera.
Donc voilà, bah écoutez, on va se quitter là pour ce soir.
On va vous dire au revoir et bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés.
Et à mercredi, ouais.
À mercredi prochain.
À mercredi prochain.
Ciao. Ciao.